Ireland.
Ireland, uh-huh.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Farsi, Deri, Pashto. In Kabul. You leave, why you leave my country? Because you have some problem in there, he has bomb blasters and anything, he doesn't have a place to study, a place to sleep, do anything for.
Bonjour à tous. La Hongrie est toujours aussi ouvertement hostile à l'accueil des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, en Afghanistan et en Irak. Depuis le 6 novembre dernier, le Fidesz, le parti de droite populiste du Premier ministre Viktor Orban, appelle à signer une pétition. Elle s'oppose au quota obligatoire de redistribution des réfugiés décidé par l'Union européenne. Et depuis les attentats de Paris, cette pétition fait un tabac dans tout le pays, sur les marchés, à la sortie des métros. Les gens se pressent pour signer. Selon le Fidesz, 900 000 personnes auraient déjà signé le texte. C'est un reportage de Florence Labruyère.
À la sortie du métro sur la place Batthyány à Budapest, les visiteurs se succèdent devant le stand blanc et orange aux couleurs du Fidesz, le parti au pouvoir. Ils signent la pétition contre les quotas obligatoires de réinstallation des réfugiés. Ilona est retraitée, elle vient d'ajouter son nom sur la feuille.
J'ai signé la pétition, elle demande aux gens de s'opposer à l'accueil de réfugiés dans notre pays. J'ai signé à cause de ce qui s'est passé à Paris, ça pourrait se produire n'importe où. Je n'ai pas envie que ça arrive chez nous.
Pour Ilona, le lien entre terroristes et migrants est évident.
C'est sûr qu'il y a un rapport entre les deux. Parmi ces migrants, il y a sûrement des types dont on ignore tout, des gens qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Le problème, c'est pas que les réfugiés viennent ici, ce sont de pauvres gens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont.
Selon les quotas décidés à Bruxelles, la Hongrie devrait recevoir près de 1300 réfugiés. Ces quotas, Peter de Mokos n'en veut pas. Cet étudiant en sciences économiques de 25 ans a lui aussi signé la pétition.
C'est inacceptable qu'après un attentat pareil, certains disent « Oh, il n'y a pas forcément de lien avec la vague de migrants, c'est absurde ». Les dirigeants de l'Union européenne n'ont toujours pas ouvert les yeux. Établir des quotas comme ils le font pour répartir les réfugiés, ce n'est pas une solution. Il faudrait envoyer de l'aide ou essayer de résoudre la situation là-bas, sur place, ce serait beaucoup mieux.
Galert Rajchani est l'un des rédacteurs en chef de Mandineur, un journal internet de droite. Cela ne l'empêche pas de porter un regard critique sur le gouvernement. Pour lui, cette pétition, qui n'a aucune conséquence légale, n'est pas vraiment nécessaire.
C'est juste une campagne politique. Toute l'année, le Fidesz a axé sa communication autour du terrorisme et de l'immigration. Je ne comprends pas pourquoi c'est si important de ressasser ce thème encore une fois et de faire campagne autour de ça.
Pourtant, Galert Rajchani est lui aussi opposé aux quotas obligatoires votés à Bruxelles.
Sur le papier, ça a l'air très bien, mais en pratique, comment fait-on? On dit aux migrants qui viennent d'arriver en Allemagne, « Ah non, désolé, il faut que vous alliez à l'est de la Bulgarie, ou en Estonie, ou au Portugal. Et comment les transporter? Dans des trains fermés? Et une fois sur place, comment fait-on pour les convaincre de rester là-bas ?»
Les quotas ont été votés à la majorité par les pays membres de l'Union européenne, mais Viktor Orban refuse de les appliquer. Après les attentats de Paris, il a même déclaré que tous les migrants étaient des terroristes. Une attitude critiquée par Nora Haidu, du parti d'opposition Ensemble.
Cette campagne du Fidesz ne fait qu'augmenter la tension et empoisonner l'atmosphère. Notre Premier ministre simplifie les choses à l'extrême et il souffle sans arrêt sur la flamme du populisme. Il mène une politique dangereuse pour la Hongrie, mais aussi pour l'Union européenne.
Viktor Orban n'est pas le seul dirigeant d'Europe centrale à mener une campagne anti-migrants. Le Premier ministre slovaque refuse d'accueillir les réfugiés et le gouvernement polonais montre peu d'enthousiasme. Pour le journaliste Galert Rajchani, l'attitude de ces politiciens ne fait que refléter le sentiment de leurs électeurs.
Les Hongrois et les autres peuples d'Europe centrale ne sont pas très ouverts vis-à-vis des migrants. Ces pays sont restés enfermés longtemps derrière le rideau de fer. Et contrairement aux pays d'Europe de l'Ouest, ils n'ont pas été touchés par le phénomène de l'immigration. Je pense que les dirigeants et les sociétés d'Europe centrale ne veulent pas se retrouver dans la même impasse que les sociétés occidentales. Ils ne veulent pas de banlieues où les jeunes sont dans des ghettos. C'est une situation confortable pour les politiciens d'Europe centrale. Ils peuvent ouvertement être hostiles à ce flux migratoire.
Selon un sondage récent effectué par un institut proche du gouvernement, 65% des Hongrois ne veulent pas que les réfugiés soient accueillis dans leur pays.
Le reportage de Florence Labruyère à Budapest. À Trieste, dans le nord de l'Italie, les autorités agissent de façon radicalement différente. Le maire du Parti démocrate a lancé un projet d'accueil. Les familles pourront désormais ouvrir leurs portes aux réfugiés et recevoir 400 euros. Mais ce projet, entièrement financé par des fonds européens, est déjà fortement critiqué, Cécile Debarge.
Tout au nord-est de l'Italie, la ville de Trieste est frontalière de la Slovénie. Chaque jour, près de 700 migrants y transitent avant de reprendre la route vers le nord de l'Europe. Rapidement, les habitants de cette commune de 200 000 âmes ont apporté nourriture, vêtements et demandé comment leur venir en aide. Le maire leur a donné la réponse sous forme d'un programme au nom sans équivoque, l'hospitalité et de chez nous. Soit la possibilité pour les habitants d'accueillir chez eux jusqu'à 2 réfugiés pour une durée maximale de 6 mois et de recevoir en échange 400 euros. Ce forfait permet de couvrir les dépenses engendrées, précise le maire. Il ne s'agit en aucun cas d'un salaire. Rien n'y fait. La Ligue du Nord a aussitôt dénoncé le projet. 400 euros pour accueillir un clandestin chez soi, c'est de la folie. D'autres craignent que certains habitants ne profitent de l'aubaine pour en faire un business. En réalité, le projet est très encadré. Il concerne les réfugiés titulaires d'un permis de séjour et familles et réfugiés seront soigneusement sélectionnés après une série d'entretiens. Cette solution d'hébergement permet de réduire d'au moins 5 euros par jour et par réfugié le coût de l'accueil, entièrement pris en charge par les fonds européens. Jusqu'à présent, les solutions ont été trouvées au compte-gouttes, ici dans les locaux municipaux, là dans des hôtels. Surtout, le projet est géré par 2 associations qui mettront à disposition médiateurs culturels et éducateurs pour aider le réfugié à développer son parcours d'intégration. Une formule expérimentale qui souhaite affronter sereinement et positivement un phénomène destiné à croître, résume-t-on du côté de la mairie, alors que les villes de Gênes, Turin, Parme et Asti plongent déjà sur des projets similaires.
Alors que les travaux de la COP21 ont bien démarré à Paris, la Pologne remet sur la table le dossier du nucléaire. Le pays ne possède encore aucune centrale, mais un appel d'offres pour en construire une va être lancé. En ligne depuis Varsovie, notre correspondant Damien Simonard. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors, depuis de nombreuses années, la Pologne est pointée du doigt pour l'exploitation polluante de son charbon. Est-ce qu'il y a de réelles chances d'y voir apparaître une centrale nucléaire ?
Eh bien, le nucléaire en Pologne, c'est du concret. Un programme national a été lancé en janvier 2014. L'entreprise publique Peguier a annoncé que 5 consortiums pourront participer à l'appel d'offres pour construire la première centrale nucléaire dans le pays, parmi eux notamment le groupe français EDF Areva. Une liste de 3 candidats retenus doit être annoncée à la mi-2016 et la première centrale nucléaire devrait être opérationnelle en 2024. La seconde, car on parle aussi d'une seconde, devrait quant à elle ouvrir en 2035. Voilà pour les plan. Maintenant, dans la réalité, les experts annoncent qu'il y a déjà quelques années de retard pour la première centrale. Une situation qui rappelle que d'après les plans, la Pologne devait également adopter l'euro, la monnaie unique, en 2007, et qu'elle devait aussi être l'Eldorado du gaz de schiste. Dans les 2 cas, ce n'était que des leurres. Donc, concernant le nucléaire, mieux vaut être prudent.
Aujourd'hui, près de 90% de l'électricité polonaise est produite à partir de charbon. Est-ce que la Pologne peut vraiment se passer de cette source d'énergie, Damien ?
Alors la question est surtout, est-ce qu'elle veut s'en passer ? Et la réponse est plutôt non. À l'échelle nationale, le charbon, vous le disiez, c'est le moteur de l'industrie énergétique polonaise. Le secteur minier emploie encore 100 000 personnes et l'État y est très impliqué. Qu'il s'agisse des mineurs, des distributeurs ou de l'État, il y a toute une chaîne économique autour du charbon. Il y a aussi une forte pression sociale de la part des mineurs. Le précédent gouvernement libéral s'est cassé les dents en essayant de fermer des mines. Le nouveau gouvernement conservateur a clairement dit qu'il soutiendrait le charbon polonais. À tout cela, il y a aussi un motif géopolitique. La Pologne, qui importe 2/3 de son gaz de Russie, veut renforcer son indépendance énergétique. Elle possède des réserves de charbon pour les 150 prochaines années, donc même s'il est polluant, de moins en moins rentable et que des mineurs meurent chaque année au fond des mines, la Pologne ne renoncera pas au charbon du jour au lendemain.
Damien, on a parlé du nucléaire, du charbon. Qu'en est-il des énergies renouvelables en Pologne ?
De l'aveu même des experts, la Pologne, c'est l'un des plus gros potentiels en matière d'énergie renouvelable en Europe, mais il n'est pas exploité. L'Union européenne impose à tous ses membres qu'en 2020, 15% de leur énergie soit produite à partir de matières renouvelables. Pour le moment, la Pologne est à 12%, essentiellement grâce aux éoliennes et aux panneaux solaires, mais cette croissance stagne et tout indique qu'elle n'atteindra pas les 15% exigés par Bruxelles. Par conséquent, si elle ne veut pas payer de pénalité, elle devra importer de l'énergie verte ou bien s'arranger autrement avec l'Union européenne. En attendant, elle arrive à la COP21 en position ultra défensive. L'annonce de la poursuite du programme nucléaire en Pologne n'est donc sans doute pas une coïncidence.
Damien Simonard à Varsovie sur Accent d'Europe. Autre forme d'engagement pour la planète, celui de consommateurs qui décident d'intégrer une coopérative d'énergie. Un exemple en Espagne avec Som Energia qui regroupe plus de 20 000 adhérents associés pour favoriser les énergies renouvelables et changer le modèle énergétique. La coopérative commercialise et produit de l'énergie verte. C'est un reportage de Martine Pouchard.
Som Energia, la cooperativa d'energia verde.
La coopérative Som Energia est née en 2010. Les particuliers qui participent au développement de cette énergie verte militent pour un changement de modèle. Sara Gutiérrez est ingénieure industrielle et membre influent de Som Energia.
Il faut que cette initiative devienne un moteur pour changer de modèle énergétique. Si la société décide d'opter pour cette solution, elle pourra choisir ce qu'elle veut comme source d'énergie. C'est donc important que Som Energia attire les adhésions. C'est une manière de dire au gouvernement, vous faites des lois contraires aux aspirations des citoyens qui veulent changer de modèle. Ce modèle énergétique conventionnel est obsolète. On ne va nulle part en payant et en investissant dans le gaz et les énergies fossiles de toutes sortes. Nous avons la chance de disposer d'énergies renouvelables. Ce serait dommage de ne pas en profiter.
Le problème en Espagne, c'est que tous les consommateurs d'énergie doivent contribuer au maintien du réseau électrique déficitaire dont le coût est estimé à 25 milliards d'euros. Il y a quelques semaines, le gouvernement a même décidé de taxer l'énergie solaire, un potentiel énorme pour un pays méditerranéen comme l'Espagne. Le soleil n'est plus gratuit, une véritable provocation pour les militants. Sara Gutiérrez.
Ce qui se passe est catastrophique. Aucune loi n'est faite pour favoriser ou promouvoir le développement des énergies renouvelables. L'énergie dépend du ministère de l'Industrie qui est plus intéressé par des investissements dans les centrales thermiques de cycle combiné ou les centrales nucléaires que par la recherche d'une autre voie, l'énergie renouvelable.
À quelques kilomètres de Barcelone, sur une plage de Mataró, Ricard Jornet a fait le choix du solaire pour son établissement. Patron du La Salle del Varador, un petit restaurant de plage, il en a couvert le toit de panneaux solaires qui fournissent 45% de l'énergie nécessaire. Le reste, Ricard l'achète à la coopérative Som Energia.
Le gouvernement ne veut plus que le soleil soit gratuit. Nous espérons que les gens vont se rebeller le 20 décembre. Il y a des élections. Il faut que les citoyens dénoncent le fait qu'ils privatisent le soleil. Et s'ils privatisent le soleil, ils privatiseront l'air. Nous devons fixer des limites parce que le gouvernement agit contre le bien commun.
La nouvelle taxe sur le solaire vise à fiscaliser la production personnelle d'énergie au-delà de 10 kW par foyer. Jusqu'en 2012, nombreux sont ceux qui ont spéculé sur ce marché du soleil en revendant leur production au réseau électrique. Le pouvoir y a mis un terme. Cela fait scandale. Frédéric Andreu, membre de Som Energia, commercialise des panneaux solaires.
Les gens installent des panneaux solaires d'abord pour faire des économies et non pour vendre de l'énergie, investir ou rentabiliser un produit financier. Le but, c'est de ne plus acheter de l'énergie sur le réseau national. Or, le gouvernement taxe à 20% toute la consommation en solaire. Voilà le problème.
L'Espagne importe 70% de son énergie. Depuis des années, le gouvernement a commis des erreurs de stratégie. Il n'existe pas notamment de ministère pour gérer l'énergie. Pourtant, le développement des énergies renouvelables pourrait permettre une plus grande autonomie énergétique. Ricard Jornet.
À chaque fois que l'on parie sur les énergies renouvelables ou la coopération scientifique, nous dépendons moins d'autres pays, comme la France qui nous alimente en électricité ou d'autres à qui nous achetons pétrole et gaz. L'atout des énergies renouvelables, c'est le renforcement de notre autonomie énergétique. C'est l'augmentation des richesses au niveau local, la pollution en moins. Tout le monde y gagne.
Ces militants en sont convaincus. En tant que péninsule particulièrement exposée au changement climatique, l'Espagne doit revoir sa politique en faveur des énergies renouvelables. C'est dans cet esprit qu'à la veille de la COP21, les régions les plus méditerranéennes du pays viennent de signer une déclaration qui propose entre autres mesures de réduire l'utilisation des énergies fossiles pour protéger l'environnement.
Des bornes Wi-Fi mobiles dans le centre de Prague à dos d'homme. Et si le projet que viennent de lancer deux informaticiens tchèques fait du bruit, c'est surtout parce que ce sont des sans-domicile fixe qui jouent le rôle de bornes mobiles, Alexis Rosenzweig.
Wi-Fi for Life, le Wi-Fi pour la vie en français, c'est le nom de ce projet qui se veut être caritatif et dont l'objectif est d'offrir aux sans-abri une forme de réinsertion. L'idée est donc d'équiper des SDF d'une borne Wi-Fi et d'un chargeur portable qui soit posté dans des rues du centre de Prague et qu'ils reçoivent en échange de la nourriture, des vêtements et même à terme un logement décent. Le site internet assure que les SDF participant au projet seront en mesure d'être au quotidien en contact avec le reste de la société et ceux qui auront fait leurs preuves pourront bénéficier de références leur permettant d'accroître leurs chances de trouver un vrai boulot. Voilà pour la théorie. Le projet a commencé sa phase de test il y a quelques semaines et immédiatement il y a eu des critiques, parfois virulentes, venant de l'étranger également. Selon certains travailleurs sociaux, le concept est peu valorisant, voire dégradant pour les personnes impliquées qui sont maintenues dans la rue au lieu d'être aidées à en sortir. Certains sont moins hostiles à l'idée mais attendent sa mise en pratique pour voir le résultat. Et pour l'instant, c'est loin d'être gagné. En effet, les appels aux dons sur un site de financement participatif n'ont permis de récolter que 30 euros en un mois sur les 5000 espérés. Les deux jeunes informaticiens à l'origine du projet Wi-Fi for Life affirment ne pas vouloir renoncer pour autant et évoquent la possibilité de trouver de l'argent du côté des sociétés informatiques ou même de la mairie de Prague. Les convaincre ne sera pas une mince affaire. En fait, ce n'est pas la première fois que ce genre d'idée est lancé. En 2012, une agence de pub américaine avait tenté le coup avec des SDF au Texas avant de se rétracter sous la pression et des polémiques jusque dans les colonnes du New York Times.
Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Oh, I know what I'm saying.
Tôt ou tard, ils finissent par être sacralisés sur le papier. Ces mots nouveaux qui jaillissent du quotidien, souvent issus des innovations technologiques et de nouvelles pratiques. En Angleterre, le Collin English Dictionary fait partie des références en la matière et il a sélectionné une liste de noms et de verbes très révélateurs de la société moderne, Marie Billon.
Le mot de l'année 2015, selon le dictionnaire Collins, c'est « binge-watching », traduit littéralement par « beuverie de visionnage », comprendre une orgie de série lorsqu'on enchaîne à la suite les épisodes d'une série télévisée. Un peu sur le mode du binge-drinking, les effets de l'alcool en moins. Selon une étude de la compagnie TiVo, 92% des sondés avouent avoir regardé plus de 3 épisodes d'une série à la suite et 37% disent avoir passé au moins un week-end en entier à visionner une série. Souvent d'ailleurs, ceux qui font ces marathons s'en vantent ensuite sur les réseaux sociaux. Résultat, l'utilisation du mot binge-watching aurait augmenté de 200% rien qu'en 2014. Alors qu'il n'est pas nouveau du tout, il est apparu dans les années 90 avec les coffrets DVD. Regarder une saison en entier était devenu possible, mais ce sont les fournisseurs comme Netflix qui ont tout changé. Il n'y a plus aucune limite. Le mot est donc bien révélateur d'un nouveau phénomène dans la société britannique et au-delà, et il en est de même pour les termes suivants. Shaming, faire honte à quelqu'un sur les réseaux sociaux, notamment le slut-shaming, dénoncer la soi-disant légèreté d'une camarade. Man-spreading, lorsque les hommes s'assoient en écartant tellement les jambes que leur voisin d'à côté n'a plus de place. Ghosting, mettre fin à une relation en ignorant coup de fil et SMS. Et enfin, contactless, le paiement sans contact. Pour l'instant, ces mots ne sont présents que sur la version internet du dictionnaire, mais si leur usage reste aussi fréquent, ils feront partie de la prochaine édition papier en 2018.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain dès 12h40 en universel et tout de suite sur les réseaux sociaux pour réécouter toutes nos émissions. Pourquoi ne pas vous livrer à un peu de binge listening? Dans moins d'une minute, un nouveau journal sur RFI.
l'épopée des musiques noires.